merci à Oana d'avoir fait le déplacement depuis Saclay donc, pour nous rejoindre. C'est un grand plaisir de recevoir Oana qui travaille vraiment à la croisée de différentes thématiques qu'on essaie de porter, développer au sein de l'équipe et du GDR. Donc Oana est chargée de la recherche au CNRS, comme ces slides l'indiquent. Elle est au CEDAR de l'UNRIA et X d'École Polytechnique. Elle travaille essentiellement sur les questions de l'impact de la publicité sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Enfin, j'ai lu un certain nombre d'articles traitant de cette plateforme-là. Et en abordant des questions extrêmement chaudes, mais en même temps structurelles, de désinformation, de manipulation, de dark pattern, et de la protection des utilisateurs, notamment des enfants. Donc, de nombreuses publications réalisées par Oana. Oana, qui est à la fois une chercheuse accomplie, reconnue, avec un certain nombre de prix, la médaille du CNRS, le prix Cabbage. très mauvais acronyme, l'Office Baguette de l'Académie française des sciences et de la Société française d'informatique. Et puis une ERC dont elle nous vantait tous les mérites depuis 2022, une ERC Starting Grant 2022-2027 qui va lui permettre de continuer de travailler sur ces thématiques-là. Et puis Oana aussi elle a une activité scientifique très très accomplie et puis aussi. Elle se déporte régulièrement vers la société civile de différentes façons. Je ne sais pas si tu nous en parleras, mais c'est une dimension importante aussi de son travail. Donc, pour toutes ces raisons, on est très heureux de la recevoir.
Merci beaucoup, Olivier. Et bonjour tout le monde. Je suis très ravie d'être là. Alors, aujourd'hui, je vais parler des comment on fait pour découvrir. Deuxième, mesurer, parce qu'on a besoin d'avoir aller au-delà des. Alors, c'est important aussi de mesurer des risques avec des méthodes scientifiques et aller au-delà de quelques exemples anecdotiques qu'on voit dans la presse et aussi comment on peut limiter ces risques. Alors, première question, quels sont ces genres de risques? Et on en a tout. On a premièrement les risques pour la démocratie. Et ici, la peur, c'est que cette plateforme peut être utilisée pour manipuler les gens et influencer leur vote de façon peut-être malicieuse. Et on a déjà eu des exemples dans les passés où Cambridge Analytica, ils ont envoyé des publicités politiques qui étaient ciblées à la personnalité des utilisateurs pour les convaincre de voter pour Trump. En même temps, un scandale moins médiatisé, mais plus inquiétant à mon point de vue, c'était les ingérences russes aux États-Unis. En fait, il y a eu une agence, Internet Research Agency, sponsorisée par Kremlin, qui ont envoyé des publicités politiques aux États-Unis avant les élections de 2016. Et ça, c'était juste quelques exemples des publicités envoyées. Les buts, c'était d'instiguer au discord entre les différentes communautés dans les pays. Alors ça, c'est ces deux risques. C'est comment on peut utiliser des plateformes, comment un tiers peut utiliser les plateformes pour influencer les citoyens. Mais il y a une autre risque qui vient des propres algorithmes de la plateforme. Et ici, on a connu les cas de YouTube qui, il y a des études qui ont dit qu'il a amené à la radicalisation du Brésil parce qu'il amenait les utilisateurs à des contenus de plus en plus extrémistes. Donc ça, c'est pas la plateforme peut être utilisée par quelqu'un d'autre, mais c'est la plateforme elle-même, elle peut aussi apporter des risques pour la démocratie. Après, on a les risques pour la santé mentale des utilisateurs. Et une chose notable, c'est que un juge en Angleterre, elle a mis la faute sur les réseaux sociaux du suicide d'une jeune fille de 14 ans. Donc, c'est la première fois que quelqu'un a mis la faute officiellement, que c'est parce qu'elle voyait beaucoup de contenus de self-harm, de se faire mal. Et aussi, on sait que de façon plus générale, des réseaux comme Instagram, ça peut nuire à la santé mentale des adolescents. Très bien. Après, il y a les risques pour la vie privée des gens. Et ici, on a deux risques. Premier, c'est la révélation d'identité. Des fois, on va sur l'Internet et on a envie de rester anonyme. Mais à cause des données qu'on poste là et des métadonnées qui vont avec, on peut identifier et déanonymiser les gens. L'autre chose, c'est que aussi à partir des données qu'ils mettent sur leurs réseaux sociaux, on peut aussi apprendre des choses qui sont leur intérêt, leur comportement qu'ils n'ont pas publié. Et ici, c'est notamment les cas, mais ça, c'était même pas sur Internet, mais c'était un magasin aux États-Unis qui s'appelle Target, c'est comme casino, et ils collectent des données aussi avec les cartes de fidélité. C'est pour ça que c'est fait, pour collecter des données et faire des profilages des gens. Ben, ils avaient inféré qu'il y a une fille qui était enceinte, alors il lui a envoyé à sa maison des coupons pour acheter des couches, et c'est comme ça que sa famille, elle a appris qu'elle était enceinte, parce qu'auparavant, il ne le savait pas. Finalement, il y a aussi des risques économiques et financiers. Et ici, probablement tout le monde regarde des avis sur l'Internet, sur un restaurant ou sur des produits qu'on achète. Le problème, c'est qu'il y a un énorme marché des faux avis. Il y a des sites web où vous pouvez taper sur Google « je veux acheter 100 avis positifs sur ce produit », il faut payer 50 euros et on aura 100 avis positifs sur les contenus. Après, les réseaux sociaux, ils essayent plus ou moins de détecter cette fraude, mais ils sont quand même très présents et ça dépend de la plateforme. L'autre problème, ça vient encore des algorithmes. Et ici, c'est le cas des apps d'Amazon, où on m'a montré qu'ils préférenciaient ses propres produits et les produits des gens avec qui ils ont fait des contrats sur les autres gens qui vendent dans leur marketplace, qui n'étaient pas connus par les gens qui participaient. Et c'est problématique, c'est pas équitable pour ces business. Bon, très bien, très bien. Ça, c'est juste une partie des risques que j'ai regardé. Et comme je disais, j'ai ma recherche et essayé de découvrir, mesurer et limiter ces risques. Alors, la question, c'est un domaine qui est relativement nouveau, un nouveau domaine de recherche. Et le problème, c'est qu'on n'a pas encore des méthodologies de mesure qui sont bien établies. Et du coup, c'est comment on y va, comment pratiquement on y va pour étudier ces risques. Et ici, nous, on fait genre 3-4 types catégories d'études. Alors, premier, c'est les études de type audit. Alors, on a les plateformes, ils sont des boîtes noires, et on essaye de proposer des méthodologies de mesure pour comprendre quelque chose sur cette plateforme. Et principalement, il y a deux choses qui nous intéressent. Un, c'est quelles données ils collectent, quelles données ils ont sur les utilisateurs, et est-ce que leur algorithme, ils amènent à des choses qui sont mauvaises pour les gens. Et là, la difficulté ici, c'est de voir comment on peut prouver ces boîtes noires. Alors, deuxième type d'études, c'est des types d'études qui analyse les comportements des utilisateurs. Là, c'est on sait que cette plateforme, ils ont changé la façon dont on interagit, on fait du business, ça impacte beaucoup comment les gens se comportent. Alors, on a besoin de collecter des larges bases de données, des activités réelles, voir un peu comment les gens ils s'approprient et ils utilisent ces plateformes pour pouvoir après mieux peut-être comprendre les risques. Après, il y a un troisième type qui est les études de type attaque. Alors ça, c'est très typique dans la communauté sécurité et vie privée. On regarde un système, on se dit comment on peut un attaqueur peut l'exploiter. Et ici, dans le cadre des réseaux sociaux, on a montré que à la base de l'interface publicitaires que Facebook montrait aux publicitaires, on pouvait désanonymiser les visiteurs de notre propre site web. Et ça, c'était quelque chose qui était un très grand problème parce que ça aurait pu utiliser pour déanonymiser des gens qui vont sur des sites web sensitifs ou même pire, des gens qui veulent organiser une lutte contre un régime dictatorial. On pouvait apprendre leur nom, leur numéro de téléphone et tout ça. Bon, après, Facebook, ils ont bien sûr arrangé le problème avant que nous, on publie les papiers. Il était sur embargo le temps que Facebook puisse bien réparer le problème. Et après, il y a des solutions. Et ça aussi, c'est assez riche parce qu'on peut avoir des algorithmes, algorithmes de détection de identité fausse. On a aussi des system design, ça c'est plus d'informatique. Comment on peut avoir une identité, une infrastructure d'identité qui est robuste, que c'est difficile que les publicitaires, que les acteurs malicieux créent des comptes nouveaux. Et ici, c'était l'idée qui était assez simple, c'est de lier l'identité des utilisateurs avec une chose qui est difficile à avoir aux attaqueurs. Et ce qui maintenant toutes les plateformes y font, ils demandent des numéros de téléphone. Et ça, c'est juste parce que dans des pays comme la France, c'est difficile d'avoir beaucoup de numéros de téléphone. Et même pour avoir un numéro de téléphone, on doit donner la carte d'identité. Alors, c'est juste, ils essayent, c'est un system design, c'est ce qu'on appelle, pour renforcer, pour que l'architecture du système, ça
oui.
Et voilà la dernière ligne. De voilà. Ok. Et la troisième chose, c'est des régulations. Et ça, pour les informaticiens, c'est moins évident. Mais c'est essayer de apporter des recommandations sur comment les plateformes devraient être régulées. Bon, très bien. Alors, dans ce domaine, la problématique la plus grosse a été l'écloisonnement des plateformes et le fait que, comme chercheurs extérieurs, on avait juste accès à des données publiques. Et il y a plein de choses qu'on aurait voulu apprendre et qu'on ne pouvait pas parce qu'on n'a pas accès aux données que les gens y reçoivent, quels posts ils reçoivent sur leur compte Facebook, quels sont leurs attributs. Alors, ce que nous, on a fait, c'est en 2015 qu'on a commencé à faire ça, c'est de proposer une méthodologie des mesures qui est basée sur des dons des données. Alors, ce qu'on a fait, c'est que maintenant, ça devient plus populaire, mais à ce moment-là, c'était pas une chose très naturelle à faire, c'est qu'on a fait un logiciel que les utilisateurs pouvaient installer sur leur ordinateur et qui capturait les contenus qui s'étaient exposés, par exemple, toutes les publicités ou tous les posts reliés aux news qu'ils voyaient quand ils se loguaient sur Facebook. Et ils envoyaient ces données chez notre serveur et nous, on a pu regarder exactement ce que les utilisateurs voient. Mais non, ça, c'était une aventure parce que c'est très difficile parce que les plateformes n'aiment pas être regardées. Alors, ils essayaient de nous mettre en danger notre collection de données et changer des choses sur les sites web pour que ça ne marche plus. Et on a eu une grosse suite des choses, des vérifiés qui ont collecté tout le temps des données. La deuxième chose, on a besoin d'assurer la sécurité et la vie privée des utilisateurs parce qu'ils nous donnent des données qui sont potentiellement très sensibles. Bon, on ne collecte pas leur nom, on ne collecte pas leurs commentaires, mais on collecte quand même des choses qui sont sensibles. Et après, quand vous vous imaginez, avoir un logiciel d'espionnage sur leur ordinateur, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont très fans de ça. Donc, c'est aussi difficile de convaincre les utilisateurs à participer dans ces études. Néanmoins, on a fait deux campagnes en 2018 pendant les élections au Brésil. Là, il y a eu 2000 utilisateurs qui ont installé notre outil et après, on a fait ça aux États-Unis pendant les élections aussi. Et là, on a eu juste 900 à peu près utilisateurs. Donc ça, c'était une méthodologie de mesure qu'on l'a utilisée dans plusieurs papiers. pas toutes, mais c'est pour ça que je les présente au début, comme ça, les restes, ça va être plus des résultats. Ah oui, alors ce que nous permet ça, c'est d'observer à la fois les algorithmes, mais on a aussi ajouté en 2020 une composante où on regarde comment les comportements des gens, comment les gens interagissent avec les contenus. On fait du mouse tracking, on essaye de voir s'ils cliquent sur combien de temps ils passent sur un certain poste, est-ce qu'ils cliquent, est-ce qu'ils regardent plus. Donc, on a aussi ces genres de données. Donc, la première question qu'on a eue, c'est comment les gens s'informent et à quel point ils sont exposés à des fake news. Parce qu'on a fait beaucoup d'études qui regardent sur Twitter des comptes qui publient des fake news et ça, on le sait faire plutôt bien d'analyser, ah, il y a cette personne qui envoie des fake news, mais on n'a jamais eu de l'autre côté, côté des consommateurs. À quel point quelqu'un sur la rue voit des fake news sur son fil Facebook? Est-ce que c'est souvent ou c'est pas souvent? Et ça, c'est ce qu'on a voulu, première question qu'on a voulu voir, combien de fake news ils voient, mais aussi des sources factuelles. Et ce qu'on a vu, c'est si on prend en moyenne sur tous les utilisateurs, c'est que 63% des posts que les gens voient sur Facebook, ça vient des sources qui sont connues d'être factuelles. Ça, c'est aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on a cette label. En France, on n'a pas cette base de données. Et après, il y a 5% des articles qu'ils voient qui viennent des sources qui sont connues d'envoyer des choses pas factuelles de façon répétée. C'est des sources connues de façon. Ça ne veut pas dire qu'il y a 5% des fake news, mais il y a 5% des posts qui viennent des sources qui sont connues d'envoyer beaucoup de fake news. Bon, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, bah, je ne sais pas. Après, au milieu, c'est des choses qui soit sont mixtes, c'est pas clair, soit on ne connaît pas, sont pas.
Pardon, mais c'est pas le mix. Ça correspond à quoi?
Alors, c'est NewsGuard qui fait ce genre d'évaluation. Mix, ça veut dire ils ont envoyé une ou deux, mais ce n'est pas de façon répétée. Ce n'est pas totalement factuel, c'est un peu du garde. Bon.
Crois qu'on
Je ne
verra,
sais
c'est ça.
pas.
Genre le monde, ce serait en source
Oui,
sûre, l'humain, ce serait en source moyenne.
ok, d'accord.
bon.
Ça leur fera plaisir.
Non,
Euh,
mais
très bien. Bon, bah, c'est très bien. On a...
Je te pose une micro-question, parce que
Ouais.
c'est lié à ce que tu viens de montrer de façon concrète. Marie demande si les pourcentages indiqués, c'est sur quelle plateforme, si c'est Facebook,
C'est
si c'est Twitter,
Facebook,
je verrai sur Internet.
pardon, c'est Facebook, oui.
Moi, j'ai une question. Comment est-ce que vous avez recruté les utilisateurs?
Alors, en Brésil, on a demandé, en fait, on a fait des articles de presse qui disaient, oh, ça, il y a un danger. Et après, l'outil aussi, il a été inclus dans une liste d'outils pour Protect Election Integrity, qui était présenté dans les Sénats. Ça avait un peu cette allure plus officielle et il y a 2000 utilisateurs qui étaient des volontiers. On a réessayé de refaire la même chose en 2022 et ça n'a pas marché. La nouveauté, c'était plus là. Alors, on n'a pas eu beaucoup d'utilisateurs. Alors, aux États-Unis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé Prolific et on a payé les gens. Et c'est plus facile. Et
Vous avez payé combien?
c'est pas énorme. Je sais pas, je pense que c'était autour des 10 euros. Mais c'est pas beaucoup.
Là, est-ce que les gens à qui on suggère de lutter contre la désinformation?
Oui, les biais, c'est clairement une chose qui est très compliquée à avoir. En Brésil, on a vu qu'on a regardé leur éducation et il y avait beaucoup plus qu'ils étaient higher education que la population normale. C'est des données biaisées, c'est pas un random sample. C'est ce qu'on voudrait d'avoir un random sample, mais pour l'instant, on n'a pas eu. Après, aux États-Unis, on a essayé de faire de stratified sampling. de prendre des femmes, des hommes, des femmes de différentes ethnicités, avec des différentes éducations et dans des différentes régions des États-Unis. Toutefois, il y avait les Asiatiques républicains, il n'y en a pas beaucoup, donc on a 3 dans la base de données. Ce n'est pas représentatif.
Sur ce dispositif-là, vous avez des éléments sur la sociologie des gens qui ont installé le logiciel, ou pas du tout?
On a des éléments sur...
La sociologie, vous savez, hommes, femmes...
C'est très facile, parce que sur Prolific, on peut sélectionner directement.
Du coup, c'était représentatif?
Représentatif. On a essayé d'être représentatif, mais on n'a pas réussi à recruter assez de gens qu'on voulait dans toutes les catégories pour être représentatif.
Et l'idée, c'était donc c'était plus diplômé
Non, ça, c'était au Brésil. Okay. Ici, non, c'était... Je ne me souviens pas, ici. Et on a, dans ce papier, dans les appendix, il y a des descriptions sur les choses qu'on a regardées. Mais il faut prendre avec un grain de sel ces résultats. C'est une première vue, c'est biaisé, c'est aux États-Unis. Mais c'est quand même curieux, ça a au moins satisfait notre curiosité de savoir.
Si je peux poser une dernière question,
vous avez
des éléments sociologiques aux individus, est-ce que vous avez pu regarder si le taux d'exposition aux fake news, par exemple, il est le même sur différentes catégories, ou est-ce que vous avez pu voir des disparités importantes en fonction de...
C'est ce qu'on essaie de faire maintenant. Regardez ça. Et on n'est pas trop sûr si on a des données qui sont assez représentatives et statistically significant pour toutes les catégories. Mes étudiants essayent de regarder ça. On peut discuter aussi après si tu veux. Retournons à la présentation. Donc, on a vu l'exposition à des fake news. Mais la chose qui nous intéresse aussi, c'est quels sont les mécanismes sous-jacents qui participent au fait que les gens y voient quelque chose. Et on ne peut pas juste dire « Ah, mais c'est les réseaux sociaux » parce qu'il faut regarder plus finement ce qui se passe. Alors, il y a des différents mécanismes. La première, c'est les utilisateurs, ils choisissent de suivre une certaine page web qui est connue pour envoyer des fake news, et ça c'est une exposition dans la littérature on l'appelle selective exposure, c'est les utilisateurs qui choisissent de faire ça. La deuxième chose, c'est les réseaux d'amis, on y va là, c'est un ami qui poste, ça vient parmi notre réseau. La troisième chose, c'est les algorithmes, c'est Facebook qui des fois il propose de postes à regarder. La plupart, c'est des choses d'entertainment, marrant, mais c'est connu qu'ils ont aussi proposé des groupes extrémistes à suivre. Et la quatrième chose, c'est les ciblages. Bon, les plateformes, ils utilisent les publicités pour faire des revenus, et cette publicité, c'est pas que dans un contexte commercial, on peut utiliser les mêmes mécanismes pour envoyer des informations. Donc, on a ces quatre mécanismes sur laquelle les news et les fake news apparaissent. Et la raison pour laquelle c'est important de comprendre la différence, c'est que si on veut apporter une solution, il faut savoir d'où ça vient. Parce que si c'est sélectif, mais il faut faire autre chose que c'est l'algorithme. Hein? Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, les gens étaient plus susceptibles d'être exposés à des fake news parce qu'ils ont suivi les sources que les recommandations ou les amis. Donc ça a changé parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on pensait, c'est que c'est les algorithmes et les amis. Et en fait, nous, on a montré que c'est plus... Bon, il y a les fake news dans toutes les 4 catégories, mais il y en a plus dans la catégorie où les gens choisissent eux-mêmes de les suivre. Et que peut-être il faut plus pousser sur les media literacy que sur les algorithmes. Bon. Comme une chose. Très bien, ça c'était sur l'exposition aux nouvelles. Et maintenant, on a voulu aussi regarder le comportement des utilisateurs. Et bien sûr, la première question, c'est est-ce que les gens, ils cliquent avant de partager une chose? Ils voient une nouvelle, un post sur leur fil Facebook, avant de les partager, est-ce qu'ils vont vraiment lire l'article de presse qu'ils partagent? Et c'est 14% de cas qui vraiment regardent l'article avant de le partager.
Et alors, le proxy, lire l'article, c'est où ouvrir?
C'est cliquer sur l'article. Ouais. Ah, okay. Ouais. C'est, donc, ça, pourquoi c'est important? Ben, c'est parce que la plupart des gens, ils prennent leurs décisions juste en regardant les titres. Et ça, c'est problématique parce que les titres sont choisis des fois de façon. Bon, très bien. très bien. Ça, c'est aussi important. Ouais.
Est-ce que vous avez regardé le temps entre l'ouverture et le moment du partage pour savoir s'il y a le temps de lire, s'il y a pas mal de littérature qui parlait du fait que même avec les liens sociaux, les lectures deviennent plus superficielles.
Le temps de lire des articles, oui, des presse.
Est-ce que alors, le temps entre je clique, combien de temps je reste sur la page et après je partage?
Je pense qu'on n'a pas regardé ça, mais on a les données. On pourra regarder dans la base des données parce qu'on a exactement le temps, pas entre les clics, mais on a le temps où quelqu'un est arrivé sur une page des news et le temps qu'il a fermé. On pourrait regarder ça.
Pas mal de médias maintenant qui ont dit que le temps de lecture.
Ouais. On peut voir à quel point ils ont eu. Oui, et ça, mais ça, on peut faire. En fait, ces logiciels nous permettent. On a une liste, on a une white list de, je pense, 12 000 domaines qui sont des news, qui sont connus d'être des news médias. Et on suit aussi, pas juste sur Facebook, mais on suit si les gens ils vont directement sur cette page pour lire les choses et combien de temps ils passent. On pourrait regarder ces données, on les a collectées, mais il y a pas mal des choses qu'on n'a pas encore exploitées dans ces données. Bon, très bien. La prochaine, c'est que les questions classiques qu'on est allé après. Est-ce qu'il y a un effet de boule de filtre? Et ici, pour mesurer ça, on a besoin d'une mesure de diversité. Alors, on a dit qu'un fil, il est polarisé si plus que 75% des publications d'articles de presse que l'utilisateur reçoit, ça vient du même biais politique. Oui, ça, c'est une définition. Il faut trancher à un moment donné. Et c'est ça qui, je pense, qui nous a paru aller aussi avec la littérature avant. Ici, on peut voir si c'est les démocrates ou c'est les républicains. Et ici, c'est polarisé à gauche. Ici, c'est polarisé à droite. Ouais. Et on voit qu'il y a juste 10% des démocrates qui ont un fil polarisé à gauche et 5% des républicains qui ont un fil polarisé à droite. Ça a l'air de... Après que cette définition, c'est pas très polarisé.
J'ai deux questions. Est-ce que vous avez classifié un biais politique sur chacun des postes vus?
Non,
c'est
basé sur la source.
C'est sur la source. Donc, ouais. Si le monde partage un article qui parle de chat, ou si l'humanité partage,
oui.
C'est gauche. Okay. Et comment vous avez eu la classification démocrate républicaine?
On a demandé. Ouais, ça aussi, c'est ça. Il pourrait mentir. Mais je peux pas faire mieux parce que vous êtes vraiment 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 démocrate.
La classification des liens des médias, vous êtes basé sur
NewsGuard. C'est pas nous qu'on a fait. Nous, on n'a pas les compétences nécessaires de faire cette évaluation. Alors on a acheté leur base de données.
Voilà, un chat Matisse, mais il a mis le lien à la catégorisation des sources dans le chat de la
bibliothèque. C'est une source classique utilisée dans la recherche. Le seul problème, c'est que c'est juste 4000 domaines qui sont catégorisés. Et on a une autre étude où on a trouvé 20 000 aux États-Unis. Donc, beaucoup plus qu'ils regardent. Bon, très bien, très bien. Alors, la deuxième question qu'on s'est posée, ou troisième question par rapport au comportement, c'est comment les utilisateurs réagissent au contenu politiquement opposé. Parce qu'on a vu, ils reçoivent les deux. Hein, est-ce que le comportement, il est le même ou pas le même? Et ici, on a regardé deux choses. La première chose, on a regardé les actions visibles. Oui, ça, c'est les partages, les likes, les commentaires. Oui, c'est que, à quel point ils font un like ou un commentaire sur les sources républicaines, sur les sources démocrates. Ici, c'est les républicains et là, c'est les démocrates. Et on voit ce qu'on pensait, que quand il y a une source qui est congruente avec leur affiliation politique, ils font plus des actions que quand c'est une source de domaine opposé. Et ça, c'était déjà connu dans la littérature. Mais ce qu'on a voulu faire, quelles sont les interactions cachées? Et le fait, c'était juste le fait d'aller cliquer et regarder l'article, de lire vraiment l'article. Et ici, ce qu'on a vu, que moi j'ai adoré, c'est qu'en fait, en proportion, ils regardent plus les articles de l'autre côté que quand ça vient de leur propre affiliation politique. Et ça, moi, je trouvais très fantastique parce que ça veut dire qu'il y a quand même une volonté des gens d'aller chercher l'information et la regarder de l'autre côté. Et ils ont apparu comme un résultat plutôt intéressant.
Ces résultats-là, ils sont standards par rapport à la littérature, c'est minime, c'est standard, c'est cohérent ou...
Alors, pour les actions visibles, c'est ce qu'on pensait. Les gens, ils ont dit, oui, les gens, ils partagent plus les choses que sont avec...
Et la proportion aussi, la proportion que vous avez trouvée.
La proportion, je pense que ça n'a pas été mesuré de la même façon et je pense que ce n'est pas comparable. Pour les actions cachées, ça, c'était la première fois qu'on avait ce jeu de données. Et du coup, il n'y a pas de littérature qui parlait de ça, parce que ça n'existait pas, parce qu'on n'avait pas les données, tout simplement. OK, très bien. Très bien, très bien. Alors ça, c'était un des dernières études qu'on a fait sur les news et les fake news. Après, moi, auparavant ça, j'ai beaucoup travaillé sur la publicité ciblée. Et ici, j'ai plusieurs études. Et tu me diras quand j'aurai commencé mes dépêchés.
On n'a pas arrêté de poser des questions, ouais. Donc ne t'inquiète pas.
J'ai mis pas mal de choses, mais j'ai pas m'arrêter à tout moment.
Alors, 20 minutes pour vrai Q&A à la fin, mais si vu qu'on a vraiment posé 10 questions déjà,
très bien. La publicité ciblée, j'ai juste quelques questions transparentes pour dire comment ça marche. Alors, la première chose, c'est que tout le monde peut être un publicitaire. Et ça suffit d'aller sur Facebook et faire Create Ads. Et mettre une carte de crédit et après vous pouvez envoyer une publicité. Ça c'est un terme de 2 heures et c'est bon, la publicité elle est envoyée. C'est pas trop beau. C'est comment, quand on envoie une publicité, la feature donnée par Facebook, c'est que tu peux choisir l'audience, les caractéristiques de l'audience. Ben, on a les choses normales, localisation, âge, genre, langue, et après on a les trucs de detail targeting, qui sont des groupes entre demographics, interest behaviors, et ici on peut choisir, et ça va des choses très, très spécifique, par exemple, à quelqu'un qui vient d'acheter une maison. Après, ça, c'est aux États-Unis. En France, je pense que cette catégorie, ça n'existe pas. Ici, d'autres exemples des catégories qu'on peut avoir. Ben, je sais pas, ça, c'est une maison, une voiture taille moyenne. Elle a des enfants entre 0 et 1 an. Il y a quelqu'un qui aime bien les coupons. Ça va. Et on a regardé dans une étude en 2018. Il y avait plus de 250 000 attributs. Ok, énorme. Maintenant, je ne sais pas. Et la question, ouais.
Dans le sens où on peut choisir telle chaîne, on vend
les non, ça, on ne peut pas. Non, on ne peut pas, ça. Bon, de ce que je sais, on ne peut pas. Très bien. Alors, la question, comment il collecte ces données, ben, il y avait différents. Source, ben on a les choses qu'ils font sur Facebook, on a les web browsing, ben je suppose que vous êtes, vous savez, les cookies, le fait qu'ils nous tracent partout sur l'internet, et du coup ils peuvent savoir tous les sites ou la majorité des sites web qu'on visite, ils peuvent les lire avec un compte Facebook. Et l'autre chose, je ne sais pas si vous le savez, mais ils font aussi des partenariats avec des magasins. Comme ça, il peut avoir les données des Carrefour. Si à Carrefour, on a une carte de fidélité, elle est liée à un email. Alors, à base de cet email, il peut mettre les données ensemble. Donc, ils ont accès à pas mal de données. Maintenant, la raison pour laquelle la publicité elle est problématique, c'est parce que ça facilite les ciblages d'informations. On peut tout à fait, on a une idée, on veut que les gens soient pas vaccinés. On peut tout à fait créer deux types de publicités différentes pour avoir la même idée. Une qui est créée et ciblée aux gens qui sont intéressés dans la médecine alternative et une autre qui est design, créée et ciblée aux gens qui sont contre les présidents, contre les gouvernements. Ouais. Alors, le problème, c'est que... Le problème, c'est que cette technologie qui a été développée pour envoyer des publicités, des chaussures aux gens qui vont être intéressés par les chaussures, maintenant, il peut être utilisé dans un contexte informationnel. Et le problème, c'est que ce que ça permet, c'est d'utiliser les données personnelles des gens pour les manipuler. C'est ça, pourquoi c'est très, très embêtant. Et elle a déjà été utilisée. Ce n'est pas juste théorique, mais elle a été déjà utilisée. Donc la question, c'est comment on peut rendre cette technologie plus sûre, quel genre de protection on peut mettre en œuvre. Et la première idée, c'était on demande plus de transparence. Alors, après les scandales de Cambridge Analytica, Facebook, ils ont mis en place cette Facebook Ad Library qui contient les publicités politiques sur leur plateforme. Ouais. Le problème, c'est que les publicitaires doivent déclarer eux-mêmes si leur publicité elle est politique ou non. Et on n'avait pas à ces moments-là des données sur est-ce que Facebook regarde si ces règles sont suivies. Donc, on ne savait pas s'il y a des publicités qui sont politiques, mais qui n'apparaissent dans cette base de données. D'accord ? Ben, ok, très bien, très, très intéressant. Le problème, c'est qu'avec les données qu'on avait, les données publiques, on ne pouvait pas regarder, vérifier ça. Et c'est à ce moment-là qu'on a développé notre méthodologie de mesure à base de dons des données. C'était dans ce but, c'était pour ce papier qu'on l'a fait. Alors, on a collecté ces données, c'était en Brésil, 2000 utilisateurs. On a créé un algorithme qui peut distinguer entre les publicités politiques et les publicités non politiques. Et après, on l'a mis pour détecter sur toute la base des données. Et ce qu'on a vu, c'est que la moitié des publicités que nous avons détectées n'apparaissaient pas dans cette base des données. Et j'ai trouvé si surprenant que j'ai eu 3 étudiants qui ont dû regarder toutes les publicités qui n'apparaissent pas pour me dire qu'ils sont vraiment politiques, parce que moi, j'étais persuadée que c'était faux positif et qu'en fait, ce n'est pas possible. Et ils l'ont fait, et c'était vraiment politique. bon. Ben, moi, j'ai crois jamais aux algorithmes. Et j'ai toujours, quand on a un résultat, il faut vérifier manuellement si ce n'est pas des fausses positives. Très bien. Bon, ça, ce n'est pas très bien. C'était très mauvais. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait les Digital Services Act qui étaient travaillés à ce moment-là. Alors, j'ai parlé avec des NGO et on a dit ben, il faut qu'on a besoin des librairies qui contiennent toutes les publicités. Et vu que Facebook sont si mauvais à juste mettre en avant les publicités politiques, on a besoin de toutes les publicités, accès à toutes les publicités. Et on a fait du lobbying et ben maintenant, dans le DSA, l'article 39, elle demande ça et je suis très contente de ça. Petite victoire, non, grande victoire quand même. Très bien. L'autre chose, c'est que cette méthodologie des mesures à base des dons de données qu'on a mis en place a appris aussi sur d'autres groupes aux États-Unis qui ont commencé à l'adapter. Et je ne sais pas si vous connaissez les Ad Observer. Il y a quelques ans, c'était très médiatique. Ils ont créé la même chose aux États-Unis et Facebook, ils l'ont poursuivi en justice. Et ça a fait un peu le tour de tout média. C'est la même méthodologie des mesures qu'ils ont utilisées après. Très bien. Deuxième chose, on peut mettre des régulations et restrictions. Très bien. Alors, la Commission européenne, elle avait proposé d'interdire ou restreindre la possibilité de micro-cibler les publicités politiques. Et ça avait l'air d'être une très bonne idée. Mais la question, c'est que ils avaient les underlying assumptions, qu'on peut très clairement partager ce que c'est politique et ce que c'est pas politique. Ouais, de façon fiable, et en fait, c'est pas le cas. Alors, pour pouvoir comprendre ça, on a fait une étude où on a des publicités, on a demandé aux utilisateurs est-ce que c'est publicité politique ou pas politique, pour voir leur ressentiment sans les biaiser dans aucune façon. Et ici, on a eu 55 000 publicités où au moins une personne a voté que c'est politique. Et on a regardé les agreements. Il y a chaque publicité, elle avait plusieurs votes, en allant des 3 à 15. Et on a regardé si, ici, c'était tout le monde est d'accord que c'est politique. Ici, la majorité pense que c'est politique, mais il y a de disagreements. Ici, majorité pense que c'est pas politique, mais il y a des arguments. Ici, c'est majorité pense que c'est pas politique. Et c'est parce qu'on a pris aussi en compte les votes des publicitaires. Si les publicitaires, ils avaient dit que c'est politique. Donc, ce que ça nous dit, c'est que toute cette partie-là, les gens ne sont pas d'accord si quelque chose est politique ou pas politique. Donc, c'est pas... Pour nous, on pensait qu'il y a des cas dans lesquels les gens ne vont pas être d'accord, mais que les cas sont limités et que pour la plupart, ça va être facile. Et ce que ça nous montrait, c'est que ce n'est pas juste quelques petits cas, mais c'est à peu près la moitié des publicités que les gens ne sont pas d'accord. Donc, ce n'est pas un petit problème. Donc, question d'après, c'est quelles sont les caractéristiques sur lesquelles les gens sont d'accord et quelles sont les caractéristiques sur lesquelles les gens ne sont pas d'accord. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un type de publicité qui s'appelle les social issue ads. C'est des publicités qui ne sont pas envoyées par des politiciens, ne parlent pas des politiciens, mais ils parlent des problématiques qui sont importantes pour la société. Et il y a beaucoup sur Facebook. Le problème, c'est qu'il y a une partie de ceux-là qui sont très politiques. Tu vois, quelqu'un qui fait de l'activisme pour les immigrants. Mais il y a aussi une grande partie qui c'est juste de l'aide humanitaire. Et le problème, c'est que comment on peut avoir une ligne entre politique et humanitaire? Parce qu'au niveau des textes, ça utilise un peu les mêmes... C'est un peu les mêmes mots. Et on voudrait une ligne qui est comprise par les humains, mais qui après aussi, elle est comprise par les algorithmes. Parce que les humains, ils ne vont pas rester et labelliser toutes les publicités politiques sur la plateforme. Et ça, c'est quand même une question assez... que je n'ai pas encore de très bonnes réponses. Alors, après ça, pendant ces études, j'étais demandée pour donner mon avis sur les European Democracy Action Plan. C'est un set de lois qui est focalisé sur les publicités politiques. Et là, avant, les définitions des publicités politiques, ça décrivait. Il disait, c'est des publicités qui viennent des politiciens et c'est des publicités qui parlent de social issues. C'était comme ça la définition de Facebook. Et moi, j'ai dit, bon, ça, c'est clairement pas bien, parce qu'avec cette définition, on ne peut pas appliquer la loi. Et j'avais proposé une chose qui est plutôt sur l'intention ou les conséquences. C'est, les publicitaires, il a l'intention de modifier les comportements, l'intention d'être politique, ou par hasard, elle pourrait, parce que les messages, elle est conçue d'une façon qu'elle pourrait influencer les choix politiques des gens. Et c'est à peu près ça qu'ils ont dans les dernières... c'était voté et il y a 3-4 semaines. Et c'est à peu près ça qui apparaît dans la définition. Et la deuxième chose dans laquelle je trouve que c'est important, c'est que dans un autre papier, on a regardé les publicités envoyées par les Russes aux États-Unis pour comprendre un peu leurs caractéristiques. Et ce qu'on a vu, c'était que les click-through rates, le nombre des gens qui voient la publicité et qui cliquent, c'était 10 à 20 fois plus grand que les click-through rates d'une publicité normale. Et ce qu'on a demandé, on s'est dit, ça, c'est un proxy qui est parfait pour détecter après des publicités. Pas qu'elles sont malicieuses, mais maintenant on a des millions de publicités. Comment on fait pour les regarder? Et ce qu'on a demandé, c'est d'avoir les click-through rates comme demande des publicitaires, de les mettre comme données. Comme ça, on peut tout à fait regarder les publicités qui ont eu le plus d'impact sur les réseaux. Après, c'est mentionné dans les recital 58 d'avoir les clics. Bon, je ne sais pas si c'est bien. Il était à un moment donné, c'était dans les vrais textes. Finalement, après négociation, ça ne part que dans les recitals. Je ne sais pas ce que ça va être. Mais les points importants que je veux faire ici, c'est que nous, on essaye, au moins en informatique, de faire des algorithmes qui détectent des choses malicieuses. Mais on n'a pas accès des données. Du coup, ça, pour moi, j'ai trouvé assez intéressant d'utiliser la loi et dire précisément quelles sont les données qu'on a besoin, qu'après on pourra utiliser pour détecter les choses. Et ça, c'est en plus de juste réguler et restreindre, mais c'est donner les moyens qu'après on peut détecter les publicités malicieuses et manipulatrices. Très bien. Et une autre chose un peu plus folle qui était considérée par la Commission européenne et surtout par les parlements, c'est de restreindre tout ciblage en général pour toutes les publicités. Et ça, c'est quelque chose que la communauté des vies privées, ils poussaient pour, mais ça peut avoir des impacts économiques assez forts, mais on ne sait pas, parce qu'on n'a pas de données sur ça. Alors, ce qu'on a voulu comprendre, c'est à quel point ça pourrait impacter les petites et moyennes entreprises. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une méthodologie de mesure où on a eu des publicitaires et on a eu cette méthode où on a lié leur profil Facebook avec des business, des entreprises sur LinkedIn. On a pu avoir le nombre d'employeurs dans toutes les entreprises. Et comme ça, on a pu regarder la première chose, quelle est la taille des entreprises qui envoient des publicités sur Facebook.
Alors, comment on a fait pour collecter les profils de business admin?
Du scraping. Mais maintenant il y a des API, peut-être que ça va marcher mieux maintenant. Mais c'était il y a quelques ans. Alors, ça c'est la taille de business et ça c'est la fraction. On considère que ce que c'est plus de 200 employés, c'est ces petites et moyennes entreprises. Donc, on a effectivement ce que Facebook il disait aussi, qu'il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui utilisent les micro-targeting et leur plateforme de publicité. Très bien, très bien. La deuxième question, ben, est-ce qu'ils utilisent des micro-ciblages? Alors, pour savoir les micro-ciblages, ce qui se passe, c'est que Facebook, il donne des informations quand il y a une publicité. Il y a un « Why am I seeing this ad ?» Pourquoi je vois cette publicité? Il donne une explication sur les raisons de voir cette... Et ça donne, c'est pas parfait, mais ça donne quand même des très bonnes explications sur les types de micro-ciblages. Alors, on a pu partager un des différents types de micro-ciblages pour chaque publicité. Alors, ça, generic targeting, ça veut dire que le publicitaire, il a juste spécifié l'âge, genre et la localisation. Ce n'est pas de micro-ciblage parce que c'est très général. Après, on a les attribute-based micro-targeting. C'est quand on choisit, ben, je veux les gens intéressés à un café et tennis. Custom audience-based micro-targeting, c'est quand les gens, ils ont par exemple Carrefour, il a la liste de tous les clients. Après, il peut les cibler. Ou quand vous allez sur un site web, juste le fait qu'il y a un cookie qui vous enregistre, on peut cibler tous les gens qui ont visité votre page Facebook ou une page Facebook, pas site internet, dans cette période où tous les gens qui ont fait une certaine action sur votre site web. Par exemple, ils ont mis dans leur panier un produit, mais on peut les cibler après. Ça, c'est custom audience-based micro-targeting. La dernière chose, c'est lookalike audience. Ça veut dire que à partir de, on dit à la plateforme, ça c'est mes utilisateurs qui viennent visiter mon site web, trouve-moi d'autres. Alors, ce qu'on a vu et qu'on était très étonnés, c'est que 72% des publicités qui viennent des petites et moyennes entreprises, en fait, ils ne sont pas micro-ciblés. Et on était très surpris parce qu'en 2018, on a fait un sur un autre jeu de données, mais cette chose, c'était à peu près 18%. La plupart des publicités, c'était micro-ciblé. 4 ans après, la plupart des publicités ne sont pas micro-ciblées. Et ça nous a rendu un peu perplexe. Voilà. Qu'est-ce qui se passe?
Et les entreprises, sont en Union européenne?
Ah non, c'est aux États-Unis. C'est
Et ça correspond à la démographie des entreprises aux États-Unis?
Je pense qu'on a on a regardé leurs statistiques, c'est comment c'est classé par les PME. Hein. Je viens de traduire les transparents.
Et c'était des volumes, c'était le volume global des publicités rapporté aux PME, enfin aux entreprises. Ok. Vous avez proportionné, c'est-à-dire.
Ici, c'est non, ça c'est juste ça, c'est les nombres de publicitaires, pas les nombres de publicités, okay. Les publicitaires, pas les entités, les advertisers. Ici, je me souviens pas, je pense que c'est au niveau des publicités. Oui, je pense qu'on a pris toutes les publicités envoyées par les petites et moyennes entreprises et combien d'entre elles. Ils sont dans chaque catégorie. Okay. Parce que sinon, un publicitaire peut utiliser des différents micro-ciblages, donc c'est difficile d'avoir une caractéristique au niveau des publicitaires. Donc ça nous a perplexifiés. Alors on a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis 2018, ils ont des algorithmes qui sont de mieux en mieux. Alors ce qui se passe, c'est que Facebook, ils proposent un micro-ciblage fait par eux. On envoie juste la publicité, on ne dit rien sur l'audience que nous on veut et on laisse Facebook choisir qui va être la meilleure personne qui va cliquer ou va acheter. Donc, ce qu'on voit, c'est que les ciblages qui avant, traditionnels, c'était ce qu'ils voulaient, c'est ne pas pouvoir choisir les gens qui sont intéressés en sport ou qui ont un certain intérêt. Ça, c'est les ciblages, je parle des advertiser-driven, c'est les publicitaires qui choisissent. Et l'autre, c'est un ciblage micro-ciblage qui est algorithmic-driven. C'est la plateforme et les algorithmes qui micro-ciblent des façons.
Et c'est plus cher, mon cher, ça fait beaucoup de la publicité, du coup.
Je pense que on n'a pas, je pense qu'il n'y a pas une grande différence. J'ai pas des études, c'est juste par expérience d'envoyer des publicités qu'il n'y a pas, grande chose. Alors, les choses qu'on a prises sur les restrictions, c'est que les définitions, c'est important qu'elles sont, je sais pas si c'est opérationnel, c'est ma traduction de operationalize. Mais c'est important de pouvoir l'appliquer pour pouvoir mettre en œuvre. Deuxième chose, c'est important d'évaluer l'impact économique des règles. Et ça, ce n'est pas une chose que j'ai vue trop, surtout dans la communauté de l'informatique, mais plus largement, ce n'est pas une chose qu'on s'est occupé de comprendre l'impact économique. Et ça, les économistes font ça, mais pas sur l'Internet, parce qu'ils n'ont pas non plus les moyens pour les faire. Mais c'est possible, au moins un petit peu. Et la dernière chose, c'est que c'est important que les législateurs parlent beaucoup avec les gens qui comprennent la technologie, parce qu'ils étaient en train de faire une régulation sur une technologie qui n'est plus utilisée, parce qu'ils n'avaient pas compris comment ça évoluait.
Historique pour ça, quand même.
Oui, il y a un historique. Ce n'est pas nous qu'on a découvert ça. On a rappelé que c'est important. Troisième chose reliée à la protection, c'est les algorithmes. Ça, c'est la chose typique en informatique. On veut faire des algorithmes pour analyser des données. Et la question, c'est bon, maintenant on a cet grand accès aux données. Et il y a aux États-Unis, il y a des centaines de milliers de publicités politiques. Mais la question, c'est comment on les regarde maintenant. C'est qu'est-ce qu'on fait? Comment on les regarde? Alors, on a regardé la littérature dans les sciences politiques, surtout les Comparative Agenda Project et Comparative Manifesto Project. En fait, ce qu'ils regardent, c'est qu'ils prennent les discussions dans les congrès et ils essayent de voir, c'est de façon manuelle à la base, de quoi ils parlent dans les congrès. Il y a aussi les Agenda Project, Manifesto Project, c'est les manifestos des partis politiques. Avant les élections, ils ont tous un parti, ils essayent de dire mais de quelle politique publique ça parle. Et ils ont un codebook assez grand. Alors on a dit, très bien, on va prendre ça, on va faire des algorithmes de NLP, de Natural Language Processing, qui détectent ça de façon automatique, et on va voir de quoi les publicités parlent. Bon, maintenant ça, c'est les grandes classes de publicités qu'on a regardées. Vers ici, c'est la précision 80%, 59% recall. Je ne sais pas si vous êtes très, très habitué avec ces genres des mesures. Alors, 59% recall, ça veut dire qu'on détecte 59 publicités qui parlent de ça sur un jeu de données gold standard. Et en 80% précision, ça veut dire quand on dit qu'une publicité s'est reliée à la santé, mais dans 80% des cas, c'est correct, dans 20%, c'est pas correct. Alors ça, c'est bien, c'est pas parfait. Ouais, c'est ce qu'on a pu faire les mieux, mais c'est une tâche qui est très difficile de partager. Alors on a dit, ok, on a ces modèles, on a regardé les élections en France en 2022, et ce qu'on a vu, c'est qu'on a regardé quelles sont les politiques publiques que les différentes catégories sociodémographiques sont exposées. Et on a vu que les femmes, ils étaient plus exposées à des publicités qui sont sur l'immigration, politique sociale et santé. Et les hommes, ils étaient plus exposés à des publicités sur l'énergie et l'économie. Et que on ne sait pas si c'est les publicitaires qui ont choisi, où c'est les plateformes et leurs algorithmes qui font ça, mais c'est ce que c'est, ce qu'on voit. Très bien, alors dans les algorithmes, ça c'est genre les débuts, on a fait une façon de le regarder.
Comment vous avez vu le jeu de données
Political Ad Library, C'est dans la librairie des activistes politiques, on l'a pris sur quelques mois. C'est très facile ça, mais non. C'est le premier pas, mais maintenant, l'os sur lequel on court, c'est on veut détecter les publicités qui veut manipuler, et aussi on veut détecter les ingérences étrangères qui veut manipuler, ou les campagnes de désinformation, les campagnes coordonnées de désinformation. C'est ça qu'on veut, et qu'on n'a pas encore des algorithmes très performants à détecter ça. Alors, donc, il y a pas mal de choses à faire. Alors, pour en finir, alors, on a parlé de risques. Alors, il y a trois piliers sur lesquels, c'est les trois ingrédients de tous les risques. La première, c'est les contenus et les identités ne sont pas vérifiés. Par exemple, notamment sur Twitter, on peut créer des comptes sans vérifier, sans les lier à une vraie personne. Et ça permet de créer des comptes et les utiliser pour des campagnes d'influence. Et après, s'ils sont suspendus, ben on s'en fout parce qu'on crée un autre compte. L'autre chose, c'est collecte des données massives, des données personnelles. Et troisième algorithme, et tous les risques, c'est une combinaison de ces trois choses. Donc, si on peut s'améliorer ici, on diminue les risques. Si on peut s'améliorer ici, on diminue les risques. Mais c'est les trois ingrédients principaux. Oui. Alors, j'avais aussi cette transparent-là. C'était de dire ça, c'est de façon un peu plus philosophique, quel est le rôle des sciences dans cette étude des risques, et une compréhension. L'informatique, elle a eu mal à comprendre pourquoi on a besoin des sciences pour étudier des risques, parce que c'est nous qu'on crée les algorithmes. Donc, on crée des meilleurs algorithmes. Pourquoi on est arrivé à ça? Pourquoi on a besoin des sciences? Alors, la chose, c'est que ces systèmes, ce n'est pas que les algorithmes, c'est une symbiose entre humains et algorithmes. Hein? Les humains, ils impactent comment les algorithmes marchent. Les algorithmes, ils impactent comment les comportements des gens. Du coup, on a un système dynamique et on ne peut pas prévoir dès le début où ce système dynamique va y aller. Donc maintenant, avec les sciences, on peut essayer d'étudier les différents états de ces systèmes pour comprendre où c'est arrivé et diminuer les états indésirables. Je pense que c'est vraiment les dernières slides transparents. Comme solution, qu'est-ce qu'on a? La chose la plus importante, c'est l'accès aux données. C'est ça que depuis 15 ans qu'on veut étudier, c'est ça qui nous empêche de faire vraiment des études randomisées, contrôlées, représentatives. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on a l'article 40 de la DSA. Je ne sais pas si vous êtes familière, toi, oui. Les autres, non. Oh, ça va être ouf. Blow your mind. Alors, je ne sais pas qui a fait la DSA. Elle a eu l'idée d'avoir un article qui dit « Vetted researchers will be able to ask platforms for data to assess systemic risks. »
C'est quoi le terme?
Vetted researchers. Vetted
researchers. Autorisé, encadré.
Autorisé, demandé.
Les chercheurs des instituts publics comme les CNRS vont pouvoir demander à l'ARCOM accès à des données très personnelles, ça peut être tout, pour étudier les risques systémiques avec les plateformes.
Donc, via les régulateurs de chaque pays?
Alors, c'est ces deux chemins, soit vers l'ARCOM qui va envoyer aux régulateurs irlandais, si c'est Facebook et Google, soit directement aux régulateurs irlandais.
Vous promets de faire la publicité d'un peu plus que Ramia qui est chez nous, est en train d'écrire exactement sur ces questions-là, qui sont de la télé, qui sont les acteurs qui peuvent venir.
Ouais. Alors, moi, j'ai fait partie d'une équipe des experts qui ont travaillé sur l'implémentation des articles. Il y aura un décret publié cette année qui vont dire c'est qui le vetted researcher. Et les proposels, quelle tête ils ont les proposels, et qui regarde quoi, comment sont évalués, comment. Donc, il va y en avoir un delegated act, et il va y en avoir aussi une consultation publique. C'est quand ils vont les mettre, la première draft. Et... Ouais.
Si je suis en train pour faire 10 secondes de film, ouais. je travaille à l'ARPUM sur l'article 40. C'est un fait d'honneur de votre consultation publique. Et si vous avez des questions sur les accès de l'UNESCO,
on va payer cette publicité, bien sûr.
Très bien. Bon, l'article 40, c'est la chose à avoir en viseur quand ça apparaît. Commencez à préparer vos propositions de ce que vous voulez étudier et quelles données vous avez besoin. Très bien. Bah, la deuxième chose, j'ai fait la publicité pour ma propre méthode. ça va résoudre, mais ça nous permet... C'est dans des données, ça nous permet de collecter plus de données sur les gens. En fait, nous, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on a des questionnaires. Du coup, on a des questionnaires, on leur demande leur trust in media, leur profil psychologique et tout ça. On peut les demander et on peut mettre en perspective ces collectes des données passives avec ces données, des questionnaires. On peut aussi les demander qu'est-ce que vous pensez de ce contenu que vous avez passé très longtemps sur Facebook. On n'a pas encore fait, mais on a la capacité technique de demander. On voulait comprendre à quel point les gens ils se souviennent d'un post Facebook. Donc, on pensait de regarder les posts qu'ils ont regardés les plus. Et après, une semaine après, leur demander est-ce que vous vous souvenez de ça. Bon, plein de petites idées. Après, ça peut être extendu aussi à tout l'Internet. On peut regarder les sites web aussi. Ça ne va pas permettre de pouvoir regarder les sites web. Bon, il y a des choses que je pense qu'on ne va pas pouvoir avoir accès à ça, mais que c'est deux bonnes méthodologies de mesure. Deuxième, c'est, on a eu un très bon succès avec avoir un impact sur les lois. Et il y a un vrai besoin d'apporter des evidence-based measures. Et il manque, c'est parce qu'on n'a pas les données, on n'a pas d'évidence, on ne peut pas faire les lois. Mais si on peut apporter des éléments, ça peut aider, surtout en ces moments. Et pour en finir, il n'y a jamais eu un moment meilleur pour étudier les risques avec les plateformes que maintenant. donc, c'est tout. Merci.
Merci.